Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de ce journal, l'insécurité dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, prend des proportions inquiétantes. Des hommes armés sèment la terreur et la désolation dans cette zone contrôlée par l'FCM 23. À quelques jours de la rentrée scolaire en RDC, les efforts pour améliorer les conditions sanitaires et d'apprentissage dans les écoles de Butembo restent insuffisants. Les structures d'encadrement des élèves se disent abasourdies et lancent un SOS. L'hôpital général de référence Jason Sendwe de Lubumbashi innove avec son service d'aide médicale d'urgence. Mais en quoi consiste-t-il? Le docteur Foreman Mabala, notre invité, éclairera notre lanterne. Je présente cette édition, je suis Ronéline Tibonera Idi Amin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi après-midi en Mbujimayi, au Kasaï oriental. À son arrivée à l'aéroport de Bipemba, le chef de l'État a été accueilli par les autorités des provinces du Grand Kasaï, plusieurs députés nationaux, ainsi qu'une foule nombreuse. Outre l'inauguration des infrastructures religieuses, Félix Tshisekedi profitera de son séjour pour visiter plusieurs infrastructures en chantier, notamment l'aéroport international de Bipemba et la route nationale numéro 1. Au Nord Kivu, la société civile de Rutshuru alerte sur la recrudescence de l'insécurité dans cette région. En l'espace de 3 jours, elle rapporte plusieurs incidents, dont l'assassinat des notables de la localité de Kaunga, près de Kiwanja. La victime a été abattue dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés non identifiés. Dans le même temps, les cas de pillage et autres exactions se multiplient dans plusieurs villages. L'autorité civile appelle au renforcement de la protection des populations dans la région. Plus de détails avec Jean Gandou.
Dans la soirée de vendredi, plusieurs villages du groupement des Biza, notamment Nyabanira et Makoka, ont été la cible des cambrioleurs armés entre 18h et 20h locales. Ces attaques sont survenues peu après le pillage de plusieurs boutiques dans le quartier Buzito à Kiwanja. Selon la société civile de Rutshuru, ces faits interviennent après l'incident de la nuit de mercredi à jeudi dans le village de Kaunga près de Kiwanja, dans le groupement voisin de Bukoma. À cette occasion, le chef du village a été tué par des hommes armés non identifiés. La même nuit, des présumés combattants CMC Nyatura ont effectué une incursion dans la localité de Bulindi, groupement de Kanyabayonga au nom de la chefferie de Bwito. Plusieurs habitations y ont été cambriolées, les biens des valeurs et autres argent et téléphones portables ainsi que du bétail, notamment le chèvre, ont été emportés. Nos sources signalent également qu'un jeune homme a été blessé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une autre incursion d'hommes armés dans le groupement de Kiondo au sud de Bwito. Face à la recrudescence de l'insécurité, la société civile appelle au renforcement des mesures de protection des civils dans cette région sous occupation de l'FCM 23 depuis plus de 2 ans, où continuent d'opérer plusieurs groupes armés et autres bandes criminelles non autrement identifiées.
Nous restons toujours au nord Kivu, mais cette fois-ci nous changeons de territoire. Les combats se sont poursuivis ce samedi entre l'AFC 123 et les combattants Wazalendo dans le secteur des Katoy en territoire des Massissi. Des sources locales rapportent des détonations d'armes lourdes et légères depuis la matinée autour des Biriko, à la limite avec le territoire de Walikale. Elles indiquent également que depuis plus de 3 jours, les rebelles recourent à des attaques de drones faisant plusieurs victimes, dont des civils. Les détails, c'est avec vous. Richard Junior Kamunga.
Depuis 6h locales ce samedi, des fortes détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans plusieurs villages situés autour des Biriko, à la limite entre les territoires des Massissi et des Walikale. Selon une source locale, l'AFC M23 tenterait de progresser vers les territoires des Walikale. Une coalition de groupes Wazalendo dirigés notamment par Noah, Machano et Mutayomba continue de riposter, intensifiant les affrontements jusqu'à fin de matinée. Des fortes explosions étaient encore signalées dans la zone. D'après d'autres sources locales, les tentatives menées ces 3 derniers jours par les troupes de l'FCM 23 pour étendre leur contrôle sur l'ensemble du secteur de Katoy accentuent les tensions. Elles indiquent également des drones militaires sont utilisés dans ces combats. Hier vendredi à 16h01, au 3e jour de ces attaques, 3 enfants et une femme ont été grièvement blessés dans le village de Kaunda situé dans le groupement Ufamando 2, secteur de Katoy. Jusqu'à jeudi, ajoute ces mêmes sources, presque tous les habitants de dégroupement Ufamando avaient quitté leur village pour se réfugier à Busurungi, ainsi que dans d'autres localités du groupement voisin de Walowa Loando en territoire de Walikale. De nombreux villages ou Famando 1er et 2 auraient également été pillés au cours de ces affrontements.
Nous allons quitter le Nord Kivu, nous prenons la direction des Bunia, où une centaine d'enfants seraient retenus depuis 3 mois par de présumés ADF dans la province du Haut-Uele. Selon la société civile, ces enfants ont été enlevés lors des incursions de ces combattants dans plusieurs localités de la province. Les acteurs locaux estiment que ces détentions viseraient notamment à procéder à leur recrutement forcé afin de renforcer les effectifs de ces groupes armés. Les familles de victimes et la société civile appelle le gouvernement à intensifier les opérations militaires pour obtenir leur rébellion. Isaac Remoyope décrit pour nous les contextes de ces enlèvements sur Radio Kapi.
Les premières attaques attribuées aux présumés rebelles des ADF ont été signalées à Mumbere, où plusieurs habitants, dont des enfants, avaient été enlevés. Par la suite, les assaillants ont étendu leur incursion à d'autres localités de la province. Aujourd'hui, les territoires de Wacha et de Wamba figurent parmi les zones les plus touchées par ces exactions. Près de 90 enfants auraient été enlevés à Maha, une trentaine à Boke et un nombre encore indéterminé à Sukambuka, une zone difficile d'accès où il est compliqué d'établir un bilan précis. La société civile affirme que lors de ces attaques, la plupart des adultes ont été relâchés, tandis que les enfants, en particulier ceux âgés de moins de 17 ans, ont été amenés par les enseignants. Les familles, toujours sans nouvelles de leurs enfants, demandent au gouvernement de renforcer les opérations militaires pour retrouver les otages et démanteler les positions des ADF. Joseph Kelema, président de la société civile de Wacha.
Les parents sont en train de pleurer leurs enfants. Jusqu'aujourd'hui, leur sort n'est pas encore déterminé s'ils sont encore en vie. Des enfants de 17 ans jusqu'à 2 à 3 ans, ils sont partis avec ces enfants dans la brousse jusqu'aujourd'hui, aucune suite. Nous craignons qu'il y ait un recrutement forcé.
Les conséquences de cette insécurité se font également sentir dans les secteurs de l'éducation. À quelques jours de la rentrée scolaire, de nombreux parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école par crainte de nouvelles attaques. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Isaac Remoyope, vous avez parlé des J-3 de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre en RDC. Cette fois-ci, au Nord Kivu, c'est les coordonnateurs du comité d'élèves de la ville de Butembo qui demandent aux autorités et les humanitaires de renforcer les mesures sanitaires dans les établissements scolaires alors que la région fait face à une épidémie d'Ebola. Il évoque notamment l'état des toilettes, l'accès à l'eau et à la surpopulation dans certaines salles de classe. Augustin Kambale Maliabwana est joint au téléphone par Martial Papimukeba.
C'est vrai que la rentrée scolaire est confirmée pour le 1er septembre 2026, c'est une bonne chose. Nous présentons néanmoins nos inquiétudes. Plusieurs questions restent encore à clarifier. Par exemple, les salubrités des toilettes, les suffisances d'eau dans les écoles. Puis le mois de juillet, nous menons des plaidoyers sur les salubrités des toilettes dans plusieurs écoles de la ville de Butembo. Nous avons pu identifier plus de 100 écoles présentant de tels besoins. Cette situation pourrait favoriser la propagation de la maladie à virus et Ebola. Il y a aussi le nombre d'élèves décollés dans les centres de classe. Aujourd'hui, la gratuité d'enseignement primaire a permis à un grand nombre d'enfants de retourner à l'école. Dans certains centres de classe, on peut trouver entre 70 et 100 écoliers, voire plus. Les suffisances des dispositifs sanitaires dans les écoles. Les dispositifs sanitaires ne sont pas disponibles. Le lavabo, le thermoflange, les désinfectants et d'autres équipements nécessaires font encore des fonds. Quelles mesures sont envisagées pour renforcer ces dispositifs?
19h passées de 8 minutes à Beni, même heure à Bunia. Notons que jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu la réaction de responsables scolaires par rapport à ces dossiers de Butembo. À Ituri, malgré les efforts déployés dans la riposte contre Ebola, des cas de résistance communautaire continuent d'être rapportés. Cette résistance favorise les décès communautaires dans certains quartiers de Bunia et plusieurs localités périphériques contribuant ainsi à la propagation de l'épidémie, déplore le personnel en première ligne. Pour inverser ces tendances, les équipes de riposte et leurs partenaires multiplient les campagnes de sensibilisation et impliquent davantage les leaders communautaires. C'est un reportage de Isaac Remoyope, rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
La lutte contre la maladie à virus Ebola reste confrontée à la résistance d'une partie de la population de plusieurs zones de la ville de Bounia et de ses environs. Dans les quartiers où les mesures de prévention sont respectées, les autorités sanitaires constatent une baisse de nouveaux cas. En revanche, dans d'autres secteurs, certaines personnes continuent de nier l'existence de la maladie ou refusent de collaborer avec les équipes de la riposte. C'est notamment le cas des quartiers Ndibé, Similiabo où des décès communautaires sont régulièrement signalés. La même situation est observée dans plusieurs localités situées en périphérie de Bounia, notamment à Miala, Centrale Soleniama et Iga Barrière, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Pour renforcer l'adhésion de la population, les équipes de la riposte organisent des séances de sensibilisation ciblées à l'intention des chefs coutumiers, des responsables religieux, des jeunes et d'autres leaders communautaires. À Miala, une organisation féminine a également mené une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre Ebola. Jeudi dernier, à l'issue des échanges consacrés aux causes de la résistance communautaire, huit chefs de groupement ont signé un acte d'engagement en faveur de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les autorités sanitaires invitent les autres leaders d'opinion à suivre cet exemple afin de renforcer la mobilisation communautaire et contribuer à mettre fin à cette épidémie qui a déjà coûté la vie à plus de 2700 personnes.
Merci de nous suivre à Matadi. La ligne maritime congolaise LMC fait face à une baisse sensible de ses activités au port de Boma. L'entreprise enregistre une nette diminution de rotation de ses navires en raison du recul de la demande à l'exportation observée ces derniers mois. Une situation qui affecte ses opérations, déplore le sous-directeur de la LMC des données Kasereka. Elise Kavira nous fait vivre la situation sur place.
L'époque où les navires de la ligne maritime congolaise multipliaient les traversées semble désormais lointaine. Au port de Boma, les rotations ont fortement diminué, comme l'explique Dieudonné Kasereka, sous-directeur de la LMC.
Actuellement, avec les rotations, nous sommes descendus à 5 voyages l'an. Or, en 2018, par exemple, 2017, nous étions à 22 voyages l'an.
Selon lui, cette baisse d'activité est principalement liée aux difficultés auxquelles font face les producteurs et les opérateurs économiques locaux.
Présentement, ce sont les opérateurs économiques qui nous approvisionnent avec leurs marchandises à transporter qui ont aussi des difficultés. Donc si on peut relancer toutes ces vieilles sociétés ou voir comment accompagner les agriculteurs à produire en quantité suffisante, je crois que nous aurons de la marchandise à transporter à l'export.
Face à cette situation, Dieudonné Kasereka plaide pour la relance de la production et des exportations locales. Une démarche qu'il juge indispensable pour permettre à la ligne maritime congolaise de faire face à ses charges d'exploitation, notamment les plus de 15 000 dollars américains de frais journaliers de location de son navire et ainsi assurer la pérennité de ses activités. Depuis Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
À Lubumbashi, quatre sites sont retenus pour accueillir temporairement le vendeur du marché Mzé Désiré Kabila. Des travaux d'aménagement de ces sites sont en cours. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a visité ces lieux vendredi pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Pour rappel, le marché Mzé Kabila devrait être démoli et le prévu la construction de nouveaux marchés modernes à cet endroit. Le vendeur seront délocalisés. Paul Munanga nous fait les points.
Ces sites sont notamment les marchés Kamalondo, les marchés de Plaine, les marchés Kaseba et les marchés du peuple qui sont situés dans les différentes communes de la ville de Lubumbashi. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, accompagné par les députés provinciaux, se sont rendus compte des préparatifs de ces lieux de négoce qui vont accueillir les commerçants venus du marché Mzé Kabila qui se trouve au centre-ville de Lubumbashi. Les travaux se poursuivent dans ces marchés. C'est notamment la construction des étalages. La maire de Lubumbashi sensibilise les commerçants du marché Mzé à se faire enregistrer pour leur relocalisation dans le nouveau marché moderne qui sera construit. Joyce Tunda.
Je demande aux commerçants du marché Mzé de passer à la mairie parce que nous sommes en train de répertorier tous ces commerçants de sorte que dès qu'on termine les travaux du marché Mzé, ils seront les premiers bénéficiaires de ces marchés. C'est vraiment un bon projet qui ne sera pas donné à tout le monde.
Signalons qu'une frange des commerçants du marché Mzé Kabila a dénoncé dernièrement sa délocalisation en organisant des manifestations. Lubumbashi, Polemou Nanga. Kitanga, Radio Okapi.
Vous le savez, plus que trois jours nous séparent de la rentrée scolaire. À Kinshasa, les opérations d'inscription et de réinscription se poursuivent dans plusieurs établissements, tant publics et privés. Certains parents se disent pendant surpris par certaines exigences imposées par des chefs d'établissement qui conditionnent notamment la réinscription des élèves au paiement préalable d'un acompte sur les frais scolaires. Une pratique dénoncée par les autorités éducatives. Saïna Nsumbu s'est penchée sur la question. Voici son reportage.
À l'approche du 1er septembre, date de la reprise des cours, chaque parent tient à s'assurer que son enfant ne manquera pas ce rendez-vous important dans plusieurs écoles de la capitale. Les parents multiplient ainsi les démarches à la recherche d'une place pour leurs enfants en âge scolaire. De nombreux parents affirment que plusieurs écoles privées exigent désormais le versement d'un acompte sur les frais d'études avant de procéder à l'inscription ou à la réinscription des élèves.
Nous nous posons toujours des questions. Pourquoi payer la réinscription? Un ancien, c'est réinscrire.
Pour d'autres parents, ces exigences ne sont pas nouvelles. Ils estiment même que le paiement échelonné des frais scolaires permet d'alléger la charge financière au moment de la rentrée.
Il n'y a rien de nouveau, on avait déjà l'habitude de payer ainsi.
Cette pratique est également condamnée par le directeur de la province éducationnelle. Robert Kongi rappelle qu'aucune disposition réglementaire n'autorise les établissements scolaires à exiger un acompte comme condition préalable à l'inscription ou à la réinscription des élèves.
Les inscriptions sont gratuites conformément aux instructions du ministère. La réinscription n'existe pas. Un enfant qui étudie dans la même école ne peut pas être réinscrit. Ce sont les antivaleurs que nous sommes en train de combattre tous.
Face à cette situation, certaines écoles enregistrent encore un faible taux d'inscription et la réinscription à quelques jours seulement de la rentrée scolaire.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger où les régimes militaires au pouvoir a affirmé ce samedi reprendre progressivement les contrôles face à des militants qui ont entrepris de séquestrer des soldats dans la base militaire attenante à l'aéroport de Niamey. Des tirs et des détonations ont été signalés dans des quartiers de la capitale plus tôt samedi, notamment celui qui abrite les palais présidentiels.
L'invité.
À Lubumbashi, l'hôpital général de référence Jason Sendwe s'est doté du service d'aide médicale d'urgence AMU. Ces services, constitués d'un char automobile et d'un médecin, vont devoir assurer la prise en charge des malades en amont. Signalons que SAMI est une première expérience dans la ville de Lubumbashi. Notre invité, Dr Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendwe, revient sur l'importance du service dans cet entretien avec Paul Munanga.
Docteur Foreman Mabala, bonjour.
Bonjour, Paul Munanga.
L'hôpital général de référence Jason Sendwe a mis en place les services d'aide médicale d'urgence SAMU. Quelle est l'importance de ces services et comment fonctionnent-ils?
L'importance de ces services, c'est une prise en charge préhospitalière. La plupart des malades qui nous viennent ici à l'hôpital, dans des situations très délicates, décèdent ou perdent leur vie tout simplement parce que il n'y a pas eu une prise en charge en amont. Et les transports est fait de manière désordonnée et ces personnes arrivent ici, parfois succombent, parfois pas de leurs blessures ou de leurs chocs, mais parfois de cette prise en charge et de ces mêmes positionnements. Nous, au niveau de l'hôpital Sendwe, dans notre programme que nous avons introduit au sein de notre institution hospitalière, nous avons relevé certains problèmes qui pouvaient être résolus dans l'immédiat avant que nous ne puissions avoir des dons venant de l'extérieur et autres. Nous nous sommes dit, nous devons créer un service d'aide médicale aux urgences pour que l'accès aux soins ne soit plus un luxe. Vous le savez tous, le chef de l'État a instauré la couverture santé universelle qui a été matérialisée par le docteur Samuel Roger Kamba, qui nous a donné le quitus de faire en sorte que nous puissions renaître l'hôpital Jason Sendwe. Alors, faire renaître l'hôpital Jason Sendwe, l'hôpital est reconnu comme étant l'hôpital des pauvres, des démunis. Alors, il a fallu mettre ces démunis dans de bonnes conditions. Parce que l'hôpital a été réhabilité avec le programme instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, l'hôpital a maintenant des moyens de faire sa politique, mais il garde toujours son aspect humanitaire. Alors, pour permettre aux uns et aux autres d'accéder aux soins sans contrainte ou quoi que ce soit, c'est comme ça que nous avons créé ces projets.
Ce service est constitué de quoi exactement?
Il est constitué d'abord d'un charroi automobile qui est bien garni, dont une affaire de 9 ambulances qui s'éparpillent à travers la ville. Nous avons 15 médecins que nous sommes en train de former. Il y a d'autres que nous avons envoyés de formation ici en Zambie ou bien à Nairobi et nous-mêmes nous formons les autres ici sur place. Nous avons des infirmiers, nous avons des laborantins, nous avons des chauffeurs. Donc c'est-à-dire avec les SAMU, on a créé de l'emploi au sein de l'hôpital Sindoué. L'hôpital Sindoué, jadis c'était reconnu qu'il ne pouvait pas avoir même un véhicule, même un vélo. Mais avec l'appui du ministère national de la Santé et de ce que nous avons ici comme recette au sein de l'hôpital, nous avons pu constituer ces charrois et qui fait le bonheur de la population qui aujourd'hui se sent à l'aise.
Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'un malade bénéficie du service SAMU?
Pour le moment, nous sommes d'abord dans la phase d'installation. Nous y allons progressivement, mais je crois que d'ici là, nous allons donner des conditions d'accessibilité parce que nous devons assurer les charrois. Nous devons augmenter même la capacité de notre charroi automobile. Nous devons augmenter la capacité de notre personnel et surtout cette force de soigner et de sauver de nombreuses vies.
Et quelles sont les difficultés qui se présentent dans le fonctionnement de ces services?
Bon, les difficultés, jusque-là, nous sommes encore dans la phase expérimentale. Je crois que les 3 mois ici suffiront de vous relever quelques difficultés que nous avons. Mais les difficultés que nous avons, ce sont des embouteillages. Et les gens ne respectent pas les gyrophares. Les gens ne respectent pas ces signes d'alerte.
Avez-vous un cas concret dans lequel le service SAMU est intervenu pour sauver une vie?
Depuis que nous avons commencé, je vous assure, c'est une vingtaine de cas. Il y a une maman qui voulait s'accoucher à la maison au quartier Brondo et on a appelé, les services sont arrivés sur place, on a mis un gynécologue obstétricien, un chirurgien et puis un anesthésiste. La dame s'est accouchée dans l'ambulance. Il y a un enfant qui est tombé sur un arbre du côté Maïcha, on a appelé, on a récupéré cet enfant, on l'a ramené. Plusieurs cas dans des concerts, des événements publics qui se sont passés lors de la marche sportive organisée par une banque de la place, le SAMU de Sindoué était là, on a pu même récupérer 3, 4, 5 malades qu'on a ramenés. En conclusion, si on peut se le dire, ce qui nous a donné encore un peu plus de force, vous devez le savoir que lors du dernier passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son itinérance médicale a été gérée par l'hôpital Sindoué. C'est une première. Toutes les ambulances étaient dans les cortèges des chefs de l'État. Et je crois que vous n'avez pas appris qu'il y a eu des incidents à gauche-droite parce que nous avons été très professionnels dans ce que nous avons fait.
Docteur Foreman Mabala, je vous remercie.
C'est moi plutôt qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.